Radio Transparence, l'info locale en impromptu.
Tous au compost, opération menée en Ariège par le SMECTOM du plan Tourelle pour nous apprendre à mettre nos déchets organiques partout ailleurs que dans notre poubelle qui va se faire enterrer à Berbiac. Ça, c'est de façon très générale. Ce lundi soir avait lieu un gros moment de cette opération. C'était au centre culturel à l'Estive avec notamment une conférence de Marc-André Sellos intitulée Le sol, cet allié méconnu. Et ça tombe bien, Marc-André Sellos, chercheur biologiste au Muséum national d'histoire naturelle, mais dans plusieurs écoles aussi, est avec nous, ainsi qu'Antoine Cochet de la Gazette Ariégeoise. Salut Antoine.
Bonjour Hugues.
Pour mener de front donc cette interview, cet entretien, dans lequel nous allons parler de peut-être ce que nous connaissons le moins et qui pourtant est là juste sous nos pieds, c'est-à-dire notre sol.
Oui, alors nous on le connaît moins que nous-mêmes, mais en fait c'est aberrant parce que c'est nous-mêmes. Votre phosphore, votre calcium, votre magnésium, tout ça, ça vient du sol. Vous êtes une expansion du sol. Et d'ailleurs, quand on met des choses pas terribles dans le sol, des pesticides ou encore des polluants, des métaux lourds, eh bien on en mange et ça détruit notre santé. Mais il faut prendre les choses à l'envers. Si on prend soin des sols, on peut prendre soin de notre santé.
Pour prendre soin des sols, encore faut-il avoir conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ne sont pas. Un enfant, quand il va jouer dans la terre, on va lui dire « touche pas ça, c'est sale ».
Oui, alors qu'il a peut-être le geste le plus sain qu'il puisse avoir. Je veux dire, c'est quand même moins dangereux de toucher de la terre que de toucher une plante, qui peut être beaucoup plus toxique. Mais il y a un préjugé culturel, c'est là qu'on met les déchets, historiquement, c'est là qu'on enterre les cadavres, donc c'est pas bien valorisé. Puis en plus, juste un détail, mais c'est pas transparent, donc on voit pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que dans beaucoup d'expressions, le sol, c'est une surface. Dans le droit du sol, par exemple, ou le fait d'être à même le sol, en fait, il y a une troisième dimension, c'est sa profondeur, et ça palpite de vie, et cette vie, elle fait vraiment le monde tel que nous le vivons.
On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas trop à qui ça appartient non plus. On ne sait pas qui doit s'en occuper. Est-ce que c'est la personne qui habite
dès
au-dessus,
lors qu'on a 10 cm
qui est propriétaire du dessus? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est personne?
Alors, on n'est pas dans la zone qui appartient à la communauté nationale. On est encore dans la zone dont on est propriétaire et qu'on a le droit d'utiliser, puis de revendre ou de tout transmettre. Et quelque part, c'est vrai qu'on a surtout des citoyens qui ne sont pas conscients que les gestes agricoles qu'ils valident de leurs achats sont impactants pour l'avenir, c'est-à-dire pour la durabilité de ces sols et leur capacité à nourrir l'humanité, et notamment leurs enfants, mais aussi que la façon dont ces sols sont traités, ça impacte leur santé. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a une agriculture qui utilise du phosphate minéral comme engrais. Ce phosphate est contaminé au cadmium, qui rentre dans les plantes. Bilan, nous, Français, nous mangeons 1,4 fois la dose maximale autorisée de ce métal lourd. La moitié d'entre nous sont en surdosage. Or, c'est un métal qui provoque des cancers. Les plus 3% de cancers du pancréas qu'on a par an en France, c'est ça. C'est largement ça. Ça provoque des problèmes de squelette, ça provoque des problèmes rénaux et hépatiques. C'est très mauvais pour la santé. Mais ça se fait dans l'indifférence générale, car ce lien intime et de santé que nous avons au sol, il passe sous les radars.
Quand on s'y intéresse au sol, Marc-André Sellos, on s'y intéresse sur un plan utilitariste. Qu'est-ce qu'on va faire pousser dedans? Comment on va faire pousser des choses dedans? J'allais dire, c'est peut-être là la première erreur, parce qu'en faisant ça, finalement, on va se dire, on ne peut pas se contenter du sol tel qu'il est. Il faut l'enrichir, l'amender, on dit.
Alors exactement, que le sol serve à l'humanité, après tout, ça ne me choque pas. Les oiseaux, quand ils font leur nid, se servent de leur environnement pour faire leur nid. Donc moi, ça ne me gêne pas qu'on se serve des sols. Il y a deux dimensions qui sont importantes. La première, c'est qu'on s'en serve bien pour nous, pour notre santé, on l'évoquait. Puis la deuxième, c'est qu'on puisse les transmettre pour que nos enfants vivent dignement. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a un débat, par exemple, sur le zéro artificialisation net. Cette idée qu'il ne faut pas faire grandir les villes parce que quand elles grandissent autour d'elles, elles enfouissent les sols agricoles qui ont permis d'installer ces villes et de les nourrir. Et dans ce débat, on voit surtout les problèmes économiques que ça entraîne. Donc on a une sorte de réticence que moi je peux comprendre. Mais on ne voit pas qu'aujourd'hui on fait disparaître, dans une France où la productivité va baisser à cause du changement climatique, on fait disparaître chaque année l'équivalent de la surface nourrissant pendant un an la ville du Havre. 5 terrains de foot par heure, jour et nuit, qui disparaissent sous des infrastructures de transport, sous l'extension des villes.
Encore aujourd'hui ?
Ah bah oui,
avec
encore
les
aujourd'hui.
Lois zéro artificialisation.
On parle de leur mise en œuvre.
Ça commence à peine. C'est la mise
on
en
parle
œuvre.
De leur mise en œuvre, mais vous avez vu que non seulement l'objectif d'arrêter complètement, c'est pour 2050, ça revient encore à demander à la génération suivante de faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est quand même pas géré en bonne poire des familles, cette histoire-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en plus, bon, bah, on est en train d'essayer d'étudier ou nous faire passer tout un tas de mesures d'exception, parce qu'aujourd'hui, le développement local, c'est la banlieue pavillonnaire, la zone artisanale. Et quelque part, il faut qu'on pense collectivement à ça. Et on a une chance. C'est qu'on a des centres-villes qui tombent en miettes. Hein, aujourd'hui, 8% des logements en centre-ville sont vacants, 10% des bails commerciaux sont vacants en France. C'est un chiffre qui est largement supérieur à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Il y a une reconquête de l'intérieur à faire. Le but, ce n'est pas juste que les villes poussent autour et pourrissent dedans. Mais derrière ça se cache, derrière ce qui est un problème politique général, se cache un bien commun qui est le sol et sa préservation. Et puis alors, pour le sol, on peut aussi faire des choses parce qu'on peut aussi être utile au sol. Et là, ça rejoint ce que défend Eric et bien d'autres, c'est que le sol, bah, on peut le nourrir. Alors, nos déchets, notre urine, par exemple, c'est des engrais. Et sans cadmium, puisque le cadmium, on le retient dans notre organisme.
On a fait le filtre.
C'est aussi la matière organique de nos cuisines ou de nos jardins qui peut retourner dans les sols et nourrir les organismes qui font que ce sol fonctionne et est durable.
Il ne s'agit pas de ne rien faire dans le sol, il faut faire en conscience.
Et nous sommes aussi la solution. Parce que c'est bien de dire, ah, on fait des bêtises, c'est l'horreur, faut pas. Oui, mais essayons de comprendre notre lien au monde. C'est ce dont je parle dans mon dernier livre, Nature et préjugés, là, qui est paru il y a 2 semaines. C'est cette idée que notre lien au monde, il est aussi fait de gestes que nous pouvons faire, qui sont des solutions. Nos déchets bien triés sont une solution pour les sols, pour y remettre de la fertilité, de l'azote, du phosphate, non contaminés, et pour y mettre de la matière organique qui lutte contre l'érosion et qui permet de retenir l'eau. Vous m'entendez ? Remettre de la matière organique dans les sols, c'est faire de plus durables réserves d'eau quand il pleut pour les saisons sèches qui deviennent de pire en pire dans notre pays.
Parce qu'on a des sols appauvris.
Parce que nos sols, comme on récolte la matière organique, on récolte les pailles, on récolte les choux, comme on n'en ramène pas puisque les engrais sont minéraux, et qu'en plus, quand on laboure, on aère le sol et on aide les bactéries à boulotter, à faire disparaître la matière organique du sol. La matière organique du sol, c'est des restes de végétaux, des choses comme ça. Eh bien, en fait, on se retrouve avec un sol qui contient moins de matière organique et qui retient moins l'eau, et puis qui se retient moins lui-même, il s'érode plus. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors que dans nos poubelles, sommeil, une belle au bois dormant, une solution pour nos sols, cette matière organique pleine d'azote et de phosphate.
Alors cette matière organique que l'on composte et que normalement on composte tous maintenant en Ariège, hein, c'est grâce notamment à Eric... Que vous avez
à peine un petit effort à faire.
À Eric Florisson. le mettre dans son jardin aujourd'hui, qu'on ne bêche pas, on y va à la grelinette tranquille, hein, on décompacte un petit peu et c'est tout.
Sachant qu'un sol bien vivant, il se décompacte à cause des vers de terre et tout un tas de trucs.
Même pas la grelinette, c'est ça ?
Bah, dans certains cas, même pas, oui.
Au crampon, à la rigueur.
À ce moment-là, ça lui suffit ? On n'a pas besoin de rajouter quelque chose à partir du moment du compost. Est-ce qu'on rajoute du fumier ? Alors, je ne sais pas si il faut ces questions très pratiques.
Quand on emporte des récoltes, il faut ramener de l'azote et du phosphate. C'est obligatoire. Mais après, bon, l'enjeu des jardins, c'est une chose.
Le compost, c'est de l'azote et du phosphate.
Oui. Mais l'enjeu des jardins, c'est une chose. Mais l'autre enjeu, c'est qu'est-ce qu'on achète et est-ce que l'alimentation qu'on achète a des labels qui montrent que les sols où ces produits sont durables.
Est-ce que ça existe,
Marco? Le label au cœur des sols, des agriculteurs qui ne labourent plus et qui font des sols qui ont de meilleures réserves en eau, une vie plus intense. Mais c'est 4% de la surface agricole. Et qui connaît ce label? Et ça revient à dire que le problème des sols, ce n'est pas les agriculteurs. C'est ceux qui achètent les produits agricoles.
On a parlé des jardins, on a parlé des champs, effectivement. Il y a d'autres espaces non artificiels. Qu'on pourrait classer dans les non artificialisés, mais qui, pour lesquels cet échange finalement entre matière prélevée et matière de retour se fait pas forcément, les terrains de sport notamment.
Les parcs et jardins.
Les parcs et jardins, normalement, il y a les feuilles qui tombent.
C'est un peu mieux,
mais les terrains
part,
de foot et de rugby, c'est pas
un terrible. Chemin sur du bois broyé plutôt qu'un chemin de gravillon, ça peut changer des choses. Un parking avec des petits croisillons de béton.
Ce qu'on appelle semi-enherbé.
Semi-enherbé, ça peut aider des choses. Des villes un peu plus vertes, en plus, ça va faire de la fraîcheur en été.
Des cours d'école désimperméabilisés, par exemple.
Voilà. Et surtout qu'en plus, revenons aux gamins. Tripoter et mettre du sol dans la bouche, c'est moins grave en moyenne que de prendre n'importe quelle plante et de manger la feuille.
Ouais, voir les sols en caoutchouc ou en débris de pneus oui, qu'on a vu fleurir dans certaines écoles.
Comment on sait si un sol est un bon sol ?
Chez soi.
Ah. Alors, déjà, un bon sol est un sol qui produit bien. Ensuite, si vous voulez entrer dans le détail, bah, vous pouvez regarder la teneur en matière organique. Ce qui ne se voit pas toujours, mais souvent, plus il y a de matière organique,
si la terre est noire,
plus c'est foncé. Ouais, ouais. Parce que c'est noir, les restes de végétaux, ouais. les restes d'êtres vivants.
Il y a toutes les petites bêtes qui vivent dedans, j'imagine.
On peut compter les bêtes. Voilà, on peut aussi regarder la porosité, parce que c'est important. Les trous, ils sont faits par les animaux qui grouillent là. Ils sont faits par les racines qui meurent. S'il y a beaucoup de racines, il y aura beaucoup de trous. Donc, quelque part, vous avez des indices aussi sur la porosité, qui est importante parce que c'est ça qui aère le sol et qui retient l'eau. Mais je vais vous dire, le vrai problème à la maison, hein, c'est de limiter les gestes qui perturbent le sol, comme le labour ou des travaux superficiels, de ramener effectivement de la matière organique et notamment l'engrais souvent organique, et de toujours planter, jamais laisser libre. Parce que bah, y a des tas d'organismes qui sont associés aux racines des plantes et qui les aident à pousser et qui meurent. Donc, ils ne seront pas là après si jamais à un moment, il n'y a pas de végétation. Un sol, il doit être toujours couvert. Dans la nature, il n'y a jamais de sol brun. Et pourtant, dans notre pays, la surface agricole, elle est brune en hiver.
Ouais. Ah ouais. D'accord. Donc, il faut un minima de l'herbe, des fleurs, des plantes.
Voilà. Et même si ce n'est pas très beau pendant l'hiver, ça entretient les coulisses de notre vie. Les coulisses de notre vie, c'est le sol.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous vous êtes dit tiens, je vais m'intéresser à cet endroit où on enterre nos morts, où on met nos déchets, où on retrouve de toutes les traces de poterie de nos ancêtres. Voilà, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passionné pour
comme biologiste,
tout ça.
Il ne faut pas avoir fait longtemps d'études pour comprendre qu'en fait on est des morceaux de sol, on est des extensions du sol, on a un lien intime au sol. Le sol, c'est nous d'une certaine façon. Mais moi, j'y suis rentré par les champignons. Étant petit, moi, je m'intéressais aux champignons, j'essayais de les identifier. Voilà. C'est une passion qui m'était venue en cinquième à cause d'un prof de sciences naturelles, comme on disait à l'époque.
D'accord.
Et après, bah, j'ai essayé de comprendre comment ils marchaient. Ça m'a projeté à la fois dans le monde microbien, parce qu'au jour le jour, ils sont faits de filaments microscopiques qui vivent notamment dans le sol. Et une fois que j'ai été dans le sol, en regardant les organismes microscopiques, bah, je me suis intéressé à toute la vie microbienne en général, et notamment au fonctionnement de ce compartiment, dont les champignons ne sont pas forcément les rois, mais ils sont quand même des personnages d'influence dans les processus. Figurez-vous que, par exemple, la plupart des plantes sont nourries par des champignons qui leur amènent la nourriture vers les racines. Les racines ne sont guère que des quais d'accueil où les champignons débarquent des choses qu'ils ont collectées dans le sol et en échange prélèvent un petit peu de sucre que leur donne la plante. Voilà le genre de coopération sur lequel notre agriculture ne s'est pas appuyée.
Et qu'elle pourrait ?
Ah ben oui, oui ! Mais pas en labourant parce que ça détruit les champignons et pas en laissant le sol nu parce que pour le coup, ils ne sont plus nourris pendant l'hiver, ils en meurent.
Oui. Vous intervenez ici en Ariège pour le Smectum du Plantorel, syndicat de traitement et de gestion de nos déchets ménagers. Le propos est bien de nous faire prendre conscience que tout ce que nous mettons dans nos sacs noirs, bah, ça ne va pas justement enrichir ce sol. J'allais dire, on est sur un pas pratique. Allez. D'une réflexion scientifique. C'est une démarche que vous...
On en parlait avec Eric en préparant cet
vous
épisode.
Avez souvent, oui.
C'est, moi, je vais là où on me demande de parler du sol. Hein. Il faut être partout parce qu'il faut l'expliquer à tout le monde. Mais on en parlait avec Eric en préparant ce moment. Y a des solutions dans certains de nos déchets, s'ils sont bien triés. Et quelque part, il faut sensibiliser les gens au fait que tout n'est pas problématique. Et puis, il faut qu'on revisite cette notion de déchets. Les déchets, c'est ce qui a déchu notamment de toute fonction. Bah, c'est vrai que quand vous jetez du plastique ou des métaux lourds, là, c'est un petit peu difficile d'en faire des choses bien. Mais par contre, toute cette matière organique de nos cuisines ou de nos toilettes, là, c'est une
ressource.
Une matière première.
Ça pourrait être une ressource.
Comme la problématique des déchets verts, en fait.
Mais aujourd'hui, vous payez des impôts locaux pour disperser ça dans les stations d'épuration, cet azote, ce phosphate, ces déchets, de vos eaux ménagères en tout cas. Alors que pendant ce temps-là, les agriculteurs achètent de l'azote et du phosphate. Vous saisissez la bêtise de ça. Tout ça parce que le déchet est un déchet, il a déchu, il n'est plus appelé à servir. Et en réalité, aujourd'hui, les Français urinent 20 à 30% des besoins en azote et en phosphate de l'agriculture française. Et ils payent pour disperser ça dans le milieu.
Donc, conseil...
J'allais dire on marche sur la tête, mais l'expression est déjà prise.
Marc-André Cellos, donc chercheur et biologiste, vous êtes venu en Ariège prendre un petit peu de votre temps qui est précieux. Juste un mot parce que donc, vous avez produit de la littérature sur le sol, sur les champignons. Je crois que vous sortez un livre qui s'appelle Nature et préjugés.
Sur le lien de l'homme à la nature. Bah oui, non, mais on retrouve le sol dedans. Oui. Mais bien d'autres choses encore.
Allez-y, bah oui,
mais moi, mon temps est. Oh, bah, notamment des choses sur le fait qu'on est en évolution, qu'est-ce que c'est que l'évolution culturelle, en quoi ça impacte notre évolution biologique, en quoi il se passe autour de nous des choses dont on ne réalise pas forcément la nocivité, comme la compétition ou la concurrence, comment construire la coopération. Et là, il y a des choses que des histoires naturelles que je raconte permettent d'inspirer et de revisiter pour essayer de faire mieux demain, parce qu'on a perdu la logique de la connexion à la nature et aux exemples de la nature. Mais en même temps, mon temps, vous disiez, il est précieux. Non, il n'est pas précieux. Il est d'ailleurs payé par les concitoyens par leurs impôts. Je suis quand même professeur du muséum, donc c'est sur les impôts collectifs. Et il est pas précieux, il est juste très pris à rendre aux gens les produits de cette recherche qu'ils négligent trop et qui font dormir des solutions, comme par exemple la matière organique face au sol.
Est-ce qu'on avance un peu, peut-être dernière question sur la question, parce que c'est vrai qu'on parlait littérature, donc ça m'a fait penser à Gaspard Koenig et à son livre Lombric. Voilà. Est-ce qu'on commence à amener notre regard un petit peu vers le sol? Est-ce que les choses changent un peu? On part de loin, hein. Il y a quelques siècles, quand on était riche, on ne mangeait pas de carottes parce que ça poussait dans la terre et que c'était sale.
Ça avance, oui, un peu. Il y a de plus en plus de gens qui sont demandeurs d'une littérature ou de conférences là-dessus. Après, ça, c'est quand même très lent dans la prise en charge au niveau des décisions politiques et des activités économiques. Et je vais vous dire, moi, ce qui m'inquiète le plus et qui fait que j'ai une autre casquette qui est de présider la fédération BioGe, B-I-O-G-E-E. Cette fédération regroupe le muséum, des académies, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens. Et elle se bat pour que nos enfants aient plus de formation aux sciences du vivant et de l'environnement. Parce qu'en fait, on est en train de refaire une génération qui est aussi peu perméable aux solutions et à l'inspiration que la nature peut nous donner que la précédente. C'est inquiétant. La précédente, elle a foiré des choses. Mais elle a fait un truc bien. Elle a mis en place des connaissances. Si on ne les met pas plus dans les fondamentaux, si le vivant n'est pas un fondamental à côté du lire, écrire, compter, qui ne suffisent bien sûr pas, puisqu'il y a des jours où vous ne le faites pas, mais ces jours-là, vous vivez quand même, et vous avez un impact sur la nature en consommant ou en faisant des déchets. Si on ne met pas le savoir-vivre, au sens d'être vivant parmi les vivants et d'utiliser le vivant durablement parmi les fondamentaux, ça va merder encore comme ça a merdé. Ça a déjà montré que sans ça, les gens font mal.
Ah ben on va tâcher de faire en sorte de merder un petit peu moins. Antoine, merci beaucoup. Marc-André Sellos, je rappelle que Tous au compost donc continue. Alors jeudi, demain, une fresque du sol, ce sera à Saint-Jean-du-Falgas à l'Aragon sur la complexité du sol et ses bénéfices. On est dans votre sujet. Samedi 30 mars, une animation autour de la vie du sol. Ce sera la médiathèque de Varie en entrée libre. Je regarde, c'est en entrée libre. Des formations pour réussir son compostage ou broyer ses ressources vertes et pas ses déchets verts. Voilà, on va le dire
très
comme
bien.
Ça. Ce sera ce mardi 2 avril à partir de 15h à Pamiers, à la maison des associations. Et le samedi 6 avril, le SMECTOM ira prêcher la bonne parole à Tarascon-sur-Ariège, cette fois-ci, 9h30, la formation à l'utilisation d'un broyeur, réussir son compost à partir de 11h. Toutes les inscriptions sur biodéchets, ils ont dit déchets, biodéchets au pluriel, @smectom.fr. Merci beaucoup Antoine.
Merci Hugues.
Merci beaucoup Marc-André Sellos. Très bonne journée. Au revoir.